Nous avons en plus de Gilbert, un débatteur de marque. Il a quitté son 6-10 du matin sur RMC pour commenter ce soir la rencontre aux côtés de Jeannot Rességuier. Jean-Jacques Bourdin est avec nous, capitaine.
Salut Jean-Jacques.
Oui, salut, salut Jean-Michel. Et Jean-Louis et toute l'équipe. Ça me fait plaisir d'être là au Stade de France.
Ça nous fait plaisir.
Même pas.
Ah, il fait moins chaud dans un stade de football que dans un studio de télé, de radio.
Oui, sûr, on se gèle, oui. Non, mais ça, c'est sûr. Mais enfin, ça me rappelle de bons souvenirs.
Mais Jean-Jacques, quelle idée. De revenir aux commentaires.
Oui, c'est vrai, quelle idée. Non, mais tu as raison, Jean-Michel, quelle idée. Mais c'était. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs de Geoffroy Guichard, entre autres.
C'est vrai.
Mais pas que de Geoffroy Guichard. De tant de stades. Le stade Bonal, le stade Ningesser, le stade, tous ces stades, je me souviens.
Et vous avez commenté, en fait, vous étiez journaliste sportif au début, sur une autre radio.
Oui, RTL.
Vous avez commenté. Vous avez commenté Captain Larquet, donc.
J'ai commenté Captain Larquet, évidemment.
Magnifique.
1976, vous rigolez ou quoi? J'ai eu la chance de vivre deux belles aventures. Saint-Étienne 1976, mais Saint-Étienne 1976, c'était pas moi le commentateur vedette.
C'était Guy Kedia.
C'était Guy Kedia, et je faisais, moi, les à côté, les reportages. Je me rappelle avoir vécu 8 jours à Saint-Étienne avant la finale. Tout était en vert, les trottoirs étaient en vert, les chiens étaient peints en vert, les gâteaux étaient verts.
Mais enfin, Jean-Jacques, c'est l'époque où les journalistes s'entraînaient avec les joueurs.
Non seulement les journalistes s'entraînaient avec les joueurs, mais le soir, aller boire des coups avec les joueurs parfois.
Bien sûr.
Et puis, bien sûr.
C'est pas interdit.
Non.
Aujourd'hui, si.
Aujourd'hui, oui. Je suis pas sûr que Jeannot aille boire des coups avec les joueurs de l'équipe de France, oui.
Ouais, Jeannot, tu vas boire des coups avec les joueurs.
De temps en temps, quand t'arrives à te faufiler sur une compétition, tu vois, si Euro ou Coupe du Monde et que tu te faufiles dans l'hôtel des Bleus, t'arrives à boire un café. Mais il faut vraiment pas traîner, quand même.
Oui, c'est sûr.
Il y a des gardes du corps partout.
Hein. Quand je pense que moi, Captain m'a jamais invité à manger aujourd'hui, c'est que les choses ont vraiment changé.
Je vais réparer cette erreur. Jean-Jacques.
Oui,
Jean-Jacques. Comment tu as préparé ce match? Des fiches partout, j'ai des fiches sous les yeux.
Tu sais, j'ai préparé ce match comme je prépare une interview politique.
D'accord.
C'est-à-dire que je travaille avant. Non, j'ai regardé surtout l'équipe colombienne. Moi, je me souviens, tu te souviens, Jean-Michel, de Yepes?
Oui, bien sûr.
C'était un bon joueur.
Oui, oui.
Mondragón, le gardien de Metz.
Aussi, un peu solide.
Le plus vieux joueur ayant joué en Coupe du Monde.
Oui.
Rappelez-vous en 2014.
Oui, exact. Il y a eu de très bons joueurs colombiens qui ont joué en France.
Bien préparé. Les yeux dans les yeux, Jean-Jacques.
Attends. Je remarque quand même que Jean-Jacques Bourdin ne cite pas Valderrama. Pourquoi? Parce qu'il a joué à Montpellier. Donc évidemment, quand t'es pas faux.
Non, mais tu as bravo. Carlos Valderrama et sa chevelure.
Oui, magnifique.
Captain,
t'avais une question?
Non, Jean-Jacques, les yeux dans les yeux, le prix d'une licence pour un footballeur?
J'ai aucune idée.
Ça va pas,
j'assume ne pas savoir. Le problème avec les politiques, c'est que souvent, ils n'assument pas ne pas savoir.
C'est vrai. Évidemment, c'était une question totalement tordue.
C'était pour plaisanter.
Quel rôle tu vas avoir avec Jeannot?
Je vais m'effacer. Parce qu'avec Jeannot, d'abord, tu peux pas en placer une. D'abord, tu peux pas en placer une avec Jeannot. Bon, donc, je vais m'effacer. Jeannot, il est tellement bon. Il est tellement bon pour faire vivre un match que je ne pourrai jamais aller aussi vite que lui. Donc, moi, je suis à mon rythme. Lui est au sien. Il va deux fois plus vite. Lui déboule sur la droite. Moi, je serai encore en défense centrale.
Vous allez être à côté donc du commentateur principal. Comme toi, Captain, pendant 30 ans. T'as peut-être un conseil pour Jean-Jacques.
Exactement.
Donc, si j'ai bien compris, Jean-Jacques, tu m'as piqué ma place.
Je t'ai piqué. Je t'ai piqué ta place. Mais alors, écoute-moi, Jean-Michel. Tu sais ce que tu vas faire un matin? Tu vas venir piquer la
place. Je n'ai pas du tout cette envie. Ni ces compétences. Absolument.
Mais si.
Franchement, on peut rigoler. Captain.
Un moment, mais bon, c'est non.
Bon, Jean-Jacques, on profite de votre présence également pour débattre, comme tous les vendredis soirs dans l'Arkéfoot.
RMC.
Pourquoi ne pas dire je me suis trompé?
C'est une honte.
Ou pourquoi ne pas dire j'ai fait ce choix?
Mais non.
C'est si simple de dire la vérité.
Ça me choque profondément.
Mais répondez, les Français veulent savoir.
J'ai été président de la Fédération Française de Suivi Théo.
Captain.
C'est magnifique.
Il y a très peu de montage, c'était une discussion que vous aviez eue un jour. On l'a carté. Alors, Jean-Jacques, on profite donc de votre présence pour avoir un peu votre regard regard de l'extérieur, parce que nous, c'est vrai qu'avec Jean-Michel, avec Gilbert qui présente l'after tous les soirs, on est la tête dans le guidon, on est entouré de spécialistes en permanence, mais on voulait avoir votre vision sur l'image des footballeurs, ceux de l'équipe de France, ou l'image en général. Est-ce qu'elle est bonne auprès du grand public?
Moi, je pense qu'elle est assez bonne. Pourquoi vouloir flétrir cette image? Moi, je la trouve assez bonne. Assez bonne, sauf, il y a un truc qui m'a vraiment choqué. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est en Ligue 2. Évidemment, je suis de près la Ligue 2. C'est en Ligue 2. C'est deux joueurs d'Auxerre qui se sont battus sur le terrain. Vous avez vu ça?
Barreto et Paloma. Ouais,
Barreto et Paloma. Ça, j'avais rarement vu ça. Tu avais déjà vu ça, toi, Jean-Michel?
Non, jamais. C'est une grande première, mais on en voit tous les, maintenant, on en découvre à peu près dans les semaines.
Ça, j'aime pas. Vraiment, franchement, j'aime pas, parce que les gamins qui sont, on dit toujours les gamins, mais c'est vrai, les footballeurs sont des exemples. Les gamins qui regardent ça, c'est catastrophique. Alors sinon, l'image,
Mais ce qu'on peut entendre sur, ils sont trop payés, ils sont déconnectés de la réalité, avec leur coupe de cheveux, avec leur côté bling bling.
Il y a un truc qui m'énervait, mais je crois que c'est, enfin, vous allez me dire si ça continue, c'est le casque sur les oreilles. L'isolement.
Ouais, ça continue. Et il y a même une épidémie, et puis c'est même contagieux, puisqu'aujourd'hui les joueurs de rugby qui n'avaient pas ça ont maintenant les casques sur les oreilles. Je crois que certains clubs les interdisent, notamment à la descente des quarts, mais est-ce que c'est respecté ou pas? Bon, c'est vrai que on a le sentiment que on est totalement coupé du monde quand avec ces casques là et que bon, les supporters, quand tu es à la descente d'un quart, qui crient ton nom, tu te retournes vers eux, tu leur fais un petit signe de la main, ils sont heureux, ça suffit.
Mais bien sûr, mais tu sais, on parle d'une autre époque, on parle d'or, nous, Jean-Michel, mais on parle d'une autre époque.
Il n'y avait pas de casque à l'époque.
Excusez-moi.
Gilbert, mais on fait les vieux, les anciens.
Excusez-moi, mais vous ne venez pas un combat d'arrière-garde quand même, là?
Allez
à la sortie d'un collège.
Bien sûr.
Regardez les gamins. Ils ont tous les oreillettes, les casques.
Mais tu as raison.
Avec son temps.
Non, mais tu as raison. Mais je vais te dire un truc. Moi, je vis à l'intérieur d'un club professionnel. Je connais plusieurs clubs professionnels. Je vois le comportement des joueurs. Charmants, ils sont polis, ils sont réservés, ils sortent jamais entre eux. Ils rentrent chez eux le soir, ils regardent des vidéos, ils jouent aux jeux vidéo, ils sont avec leurs copines. Il y a plus. Moi, je me souviens des clubs professionnels de football, tout le monde sortait. C'est pas vrai, Jean-Michel?
Absolument.
Les choses ont évolué, c'est peut-être pas très grave, mais partir du moment où l'équipe, le club passe en premier. C'est peut-être là-dessus qu'il y a eu une évolution sur une individualisation du foot, captain, qui est peut-être un peu plus gênante pour l'image.
Oui, on le sait aujourd'hui, on en a eu l'exemple malheureusement avec le Paris Saint-Germain, où on a pensé que en additionnant des stars on aurait une équipe, et on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais je voulais revenir sur la petite différence, Gilbert, c'est qu'à la sortie du lycée, on peut le regretter aussi, parce que les enfants aujourd'hui se parlent beaucoup moins qu'on ne se parlait nous. Ça, c'est une chose.
Ils se parlent différemment, Jean-Michel. Bon, ils se parlent peut-être via Snapchat ou Instagram, mais ils se parlent quand même.
D'accord,
mais c'est différent.
La différence, c'est que quand je te dis que eux n'ont pas de supporters qui les appellent, qui les interpellent en leur disant « Oh, Pribois !» Et si tu leur fais un petit signe, ils sont contents, ils sont heureux. Mais si tu as le casque sur la tête, tu ne les entends pas. Donc, ils ont un rôle un peu différent.
Moi, je pense qu'on tombe facilement quand même sur les
footeurs. Dans la caricature.
Regarde, la dernière polémique du moment, c'était les cheveux bleus de Pogba.
Oui.
Mais Pogba, qu'il ait des cheveux bleus, jaunes ou verts, mais on s'en fout, franchement. Qu'est-ce que ça change que Pogba ait des cheveux bleus?
Ce qui change, c'est que sur le terrain, il n'est pas bon, et que du coup, il y a plein d'artifices autour.
Mais ça a un rapport avec les cheveux bleus?
Oui, parce que quand t'es pas bon sur le terrain, il faut être discret autour. Oui. Tu peux te permettre de faire des choses excentriques si t'es irréprochable sur le terrain. Or, avec Pogba, on est toujours sur notre fin. Donc après, de le voir danser, de le voir changer de coupe de cheveux, ça pose un problème. Oui.
Ah, il faut assurer quand même, Gilbert. Il faut assurer un minimum.
Merci, Captain.
Non mais alors bon, écoutez, je pense qu'il faut laisser ces jeunes-là vivre avec leur temps. Il y a une étude récente qui dit qu'on est adolescent jusqu'à 24 ans. Ça veut dire que 80% des footeux, c'est des ados. C'est les ados des post-ados.
Non, mais comme beaucoup de sportifs, ce sont aussi des assistés, parce que on leur fait tout, parce qu'ils ont autour d'eux une ribambelle de conseillers, de conseillères qui fait que ces garçons-là ne sont pas confrontés à la vie réelle. Mais attention, de toute façon, il n'y a pas que les footballeurs.
Oui, parce que ça, Jean-Michel a raison, il n'y a pas que les footballeurs. Et moi,
on y va tout doucement. Hein.
Oui, mais moi, je serais un peu moins sévère, parce que je trouve que dans la jeune génération de footballeurs, je les écoute parler, ils ont fait des progrès. Et je vois, par exemple, un garçon comme Mbappé, il a des raisonnements intelligents, il n'est pas le seul. Je trouve, et moi, je vois, encore une fois, les équipes que je connais un peu, je vois les jeunes joueurs. Regardez chez nous, le petit Bozok, il a 21 ans, il est très intéressant à écouter, il est intelligent, ouais. Et il n'est pas le seul, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Je trouve qu'il y a une évolution.
Ah, je pense que Naïsna nous a fait beaucoup de mal et un peu de bien.
Oui, et on remonte tranquillement parce que ce que tu dis, Captain, il y a eu un baromètre Next Régie RMC et BFM TV récemment et un sondage dans lequel on voit que l'image des Bleus n'est pas forcément au top. 46% des Français ont une image positive de l'équipe de France. Bah, c'est énorme, oui et non. Chez les fans actifs, c'est 85%. Donc, en gros, chez les fans de foot, ça remonte un peu, quoi.
Oui, mais 46% tout public confondu?
Oui.
Bah, c'est vachement bien. Oui, pardonnez-moi.
C'est très bien.
Bah, tous les politiques rêvent de 46% de
popularité. Ah oui, d'accord. Mais a priori, le footballeur est moins clivant que le politique.
Oui, d'accord. Mais ça, c'est pas sûr.
Il y en a certains qui le sont.
Regardez Benzema.
On voit quand même que les supporters, c'est assez clivant. Quand on est supporter du Paris Saint-Germain,
de France, normalement ça rassemble. 19h18, vous êtes dans l'Arc et Foot avec Captain Larquet, avec Gilbert Bribois, avec Jean-Jacques Bourdin au Stade de France. Jean-Jacques, quand on était reporter sportif à l'époque de Saint-Etienne, de l'équipe de France de Michel Hidalgo.
Bastia, j'ai vécu Bastia à 78, exceptionnel.
Claude Papy.
On tirait en l'air à Bastia.
Chez Walter, évidemment.
Alors la fin de ma question, c'était qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de France, de Didier Deschamps, de l'équipe de France actuelle, de la façon de jouer du sélectionneur?
Vous parlez à qui parlez-vous?
Bah, à vous
moi, le grand spécialiste.
Au consultant.
Didier Deschamps est quelqu'un de prudent. Donc, toujours prudent. Pour l'instant, il a des résultats. On peut dire ce qu'on veut, mais il a des résultats. Ce que je pense, c'est que moi, j'y crois à cette équipe. Vraiment, moi, je la vois au moins en quart de finale de la Coupe du Monde. On verra bien ce que ça donne. Si j'ai bien compris, il va jouer ce soir en 4-4-2. Hein.
Oui,
c'est bien ça.
Oui, ça existait déjà à notre époque.
Oui, exactement. Mais le 4-4-2, c'est bien quand tu as des joueurs sur les côtés qui viennent défendre aussi. Et j'attends de voir Mbappé revenir derrière, suppléer Sidy B.
Assumer son rôle défensif,
j'attends de voir.
Bah, Captain avait les mêmes craintes tout à l'heure, effectivement.
Ah bah, oui. On se rejoint là-dessus.
Jean-Jacques, la montée de Nîmes, elle est faite à combien de pourcents?
Je vais pas jouer les langues. On joue la montée. Il faut arrêter de dire qu'on joue pas la montée.
La victoire à Brest, c'est
très
quand même
important.
Il y a 4 points d'avance sur le troisième.
Elle est très très importante.
Sachant qu'il n'y a que les deux premiers qui montaient.
Il y a les deux premiers qui montent. Elle est très importante cette victoire parce que on vient de jouer 4 matchs. On vient de gagner 4 matchs, dont 3 à l'extérieur. Et l'équipe est très équilibrée. Très, très bien à tout point de vue, on prend peu de cartons et on n'a pas de blessés. Donc il nous reste 8 matchs, 4 à la maison, 4 à l'extérieur. On peut considérer que sur les 4 à la maison, il y en a 3 qui sont assez faciles contre des équipes milieu de tableau, donc ça fait 12 points. On peut, enfin 12 points potentiels, on peut considérer qu'à l'extérieur, on va à Quevilly, on va à Bourg-en-Bresse, donc là on peut au moins un sur les deux. Et puis sur les 2-3 matchs autres, on peut gagner une ou deux fois. Donc si on est sérieux, on est en Ligue 1.
Il y a un problème quand même, Jean-Jacques.
Lequel?
Le stade.
Non. Le stade, ça y est, c'est en cours, le stade.
Il va y avoir un nouveau stade à Nîmes.
Oui, bien sûr. C'est en cours.
Pour la rentrée prochaine, non?
Non. Si on monte en Ligue 1.
Mais c'est pas si mal que ça, les Costières.
Non.
Ça a vieilli quand même.
Il est vieux, on se gèle, on peut pas boire un coup, on peut même pas aller pisser. Non, c'est épouvantable.
Ah si, tu sors du stade et tu vas en face.
Non, mais c'est épouvantable.
Et il fait froid. Et quand il fait froid, il fait froid.
Mais tu as raison. Quand il fait froid, il fait froid. Non. On joue, si on monte en Ligue 1, on jouera l'année prochaine aux Costières et on va engager, on va le raser, les Costières. Et on va reconstruire un stade à l'emplacement des Costières si la municipalité accepte de nous vendre le stade. Tout va se débloquer fin mars, début avril.
D'accord, donc dossier important effectivement pour l'avenir du club. Et on le sait tous sur RMC, mais que vous êtes conseiller du président à Nîmes.
Oui, parrain du club.
Parrain du club, voilà. Captain, tu voulais rajouter un mot?
Non, simplement que ce sera un énième retour de Nîmes. Mais Nîmes,
25 ans.
Mais Nîmes a été un club mythique. Oui. Un club mythique disputant des finales de Coupe de France contre le Stade de Reims, avec Charles Alfred, avec Jean-Pierre Adams, avec
Jean-Michel.
Avec Michel Mézic, que je salue et que j'embrasse.
Ah, voilà. Où étais-tu dans la saison 71-72?
Ben, Saint-Étienne, de temps en temps.
Saint-Étienne?
Oui.
Eh ben, on a terminé second du championnat derrière l'OM.
Oui.
Et je me souviens de cette équipe. On avait deux Roumains à droite, hein, qui s'appelaient Pierre Calab et l'autre Voyena.
Voyena et Pierre Calab.
On avait Jacques Ivergne.
Absolument.
Comme avant-centre. Mm-hmm. Michel Mézy en 10. Alors, et un joueur que tu as connu, ailier gauche, qui s'appelait Jacques Bonnet.
Bien sûr, petit format. Et je vais te raconter même. Bon. Vas-y. Mon retour de Nîmes, où nous en avions...
Vas-y, attends, tousse un peu si tu veux.
On en avait pris 3 à Nîmes, 3-0. Oui, oui. C'était un début de saison et nous étions remontés en quart de Nîmes vers Saint-Étienne. Oui. Et le président Rocher avait pris la parole au moment de quitter le bus. Il nous avait dit, les gars, faut relever la tête. C'est une défaite qui en appelle d'autres. Voilà. Et on s'était quitté là-dessus.
Tu parles de Saint-Étienne, Jean-Michel. Je vais te raconter juste deux anecdotes sur Saint-Étienne. Je vais vous raconter, Jean-Michel, je peux rien lui apprendre sur Saint-Étienne. Mais quand on était jeune journaliste, moi, j'étais jeune journaliste à RTL et j'avais un cauchemar quand on me demandait une interview de Robert Arbin. Parce que quand tu posais une question à Roby, il te répondait par oui ou par non. Alors, quand tu es journaliste, jeune journaliste, que tu arrives, tu poses la première question qui te répond oui, il faut avoir préparé au moins 5 questions derrière, hein, parce que sinon, t'es vraiment ridicule. Et j'ai une deuxième anecdote. Un jour, je vais dans les vestiaires de l'AS Saint-Étienne et j'étais très copain avec Jean-François Larios, moi, vraiment, vraiment très proche. Et Jean-François, j'avais soif, et Jean-François me tend sa bouteille. Je vois une bouteille, il y avait un liquide un peu
du opaque. XL1.
Oui, oui. Opaque dans la bouteille. Je bois ça. J'ai pas dormi de la nuit, dites-moi. Je me demande ce qu'il y avait là-dedans. C'est du gronzant ou un truc comme Jean-Michel. Non.
Excellent, c'était
mieux peut-être pas ça.
Ouais, un truc.
Non, mais c'était vu au-dessus de tout le monde.
C'était un truc hyper vitaminé, ça.
Ouais. Ah ouais.
Survitaminé.
Il y avait beaucoup de vitamines.
Ouais, puis, bon, ça, c'est sûr.
Tu en pissais les 9 dixièmes.
Ah oui, d'accord. Jean-Jacques, merci beaucoup.
Merci.
À tout à l'heure, 21h pour le match donc avec Jeannot Rességuier.
Messieurs,
et à lundi à 6h bien sûr sur RMC.
Ah, Jeannot, petite info de dernière minute qui n'a rien à voir avec le match, le football, mais c'est plutôt l'avant-match. La Fédération française de football vient de décider à l'instant une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat de Trèbes aujourd'hui. Il y aura une minute de silence juste avant le coup d'envoi de ce France-Colombie tout à l'heure à 21h.
Merci Jeannot, belle initiative. À ce soir Jean-Jacques et Jeannot donc aux commentaires de France-Colombie. Vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin tous les matins entre 6h et 10h sur RMC. Gilbert, merci. On te retrouve tous les soirs.
Il n'a pas eu le temps de tout tailler, Gilbert. Rien quand même.
Tu voulais qu'il taille qui?
Moi, j'ai quand même pas oublié les tacles de René Girard à Nîmes, mais je voulais pas en parler pour gâcher l'ambiance.
Non. C'était un excellent footballeur. Excellent footballeur.
René Girard?
René, ouais. Très, très bon footballeur.
Par rapport à Raymond Domenech?
Moi, je l'ai vu pourchasser le jeune Youri Djorkaeff un jour de l'autre côté du terrain pour l'attraper au niveau des genoux.
Ah, mais c'est parce que Youri avait dû lui dire des choses.
C'était la faute de Youri.
C'est la faute de Youri, ça.
Allez, merci Gilbert. Ouais.